Le premier défi, c'est tout ce qui a trait, alors on appelle ça en Europe la réduction des émissions de CO2. Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques et ils appellent ça le fuel efficiency. En fait, c'est rendre un véhicule de moins en moins vorace en énergie ou environmental friendly. Et je vais y revenir. Et le deuxième, c'est ce que nous, chez Valeo, on appelle la voiture intuitive, mais c'est la voiture connectée avec son extérieur, c'est la voiture autonome qui conduira toute seule, et puis c'est bien entendu l'interface homme-machine, parce que plus la voiture sera autonome, plus le conducteur devra s'adapter à sa voiture. On met quelques secondes pour s'adapter à un iPhone ou à un iPad. Quand vous avez une voiture autonome, vous mettez finalement la vie de la voiture pour découvrir encore des spécificités de votre voiture que vous ignoriez pendant les quelques centaines de milliers de kilomètres que vous avez conduit avec la voiture. Et ces deux domaines sont de vraies révolutions et entraînent en termes de R&D et en termes de nouveaux concepts des choses absolument incroyables. Si on regarde la partie réduction des émissions de CO2, et du reste c'est vrai pour la voiture autonome ou la voiture intuitive, il n'y a pas aujourd'hui de solution technique claire pour la réduction des émissions de CO2, pour l'optimisation énergétique de la voiture. Il y a bien entendu l'optimisation du moteur thermique. Vous savez que pendant toute une période, on augmentait la cylindrée des voitures. Les voitures allemandes avaient 6 cylindres, 8 cylindres, 12 cylindres. Qui aurait imaginé que des BMW auraient 3 cylindres et que des voitures reviendraient aux deux chevaux qu'on avait quand on était gamin avec deux cylindres. Par contre, le confort est devenu presque le même, voire le même, voire le meilleur. Meilleur que les deux chevaux, ça c'est sûr. Mais équivalent à ce qui existait quand les voitures avaient 6 cylindres, 8 cylindres, 12 cylindres, et voire la puissance reste la même. Donc il y a l'optimisation du moteur thermique, il y a tous les add-ons électriques, c'est-à-dire qu'on met le moteur hybride, c'est la Prius. Après, on se dit on peut mettre un moteur électrique et aussi une batterie au lithium-ion, par exemple, et on la charge, donc ça devient un plug-in hybride. Ou alors on se dit on met un groupe électrogène qui tourne toujours à son optimum de puissance, qui charge une batterie, donc il n'est pas lithium-ion, donc beaucoup moins cher, et puis le véhicule est électrique. Et puis on enlève le moteur thermique, ça devient une voiture purement électrique. Et puis les Japonais, Toyota, qui a inventé la voiture hybride avec la Prius, a décidé de ne pas faire de véhicule électrique au lithium-ion, mais de passer directement à la pile à combustible. Qui est finalement un véhicule électrique, mais dont la production d'électricité ne se fait pas par une centrale nucléaire ou par une centrale à charbon, mais par de l'hydrogène qui, par la pile à combustible, va fabriquer sa propre électricité, qui va être dans une batterie, mais dans une batterie normale, donc beaucoup moins chère. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelles seront les technologies gagnantes. On commence à voir des segmentations du marché selon la taille du véhicule, selon la puissance du véhicule. Il est clair que quand on fait des études de marché, la partie économie d'énergie, efficacité énergétique de la voiture, environnement de la voiture vient toujours en numéro un, quel que soit le marché, que ce soit la Chine, le Japon, l'Inde, l'Europe, l'Amérique du Nord, on fait énormément d'enquêtes de marché, c'est toujours le premier. Il n'y a pas de solution unique. Il y a énormément d'argent qui est mis. Nous, on dépense chaque année en R&D 10%, un peu plus de 10%, presque 11% de notre chiffre d'affaires. Il y a les deux tiers qui sont sur les réductions d'émissions de CO2, un tiers qui est sur la voiture autonome. Donc, pas de solution unique. Énormément de solutions différentes. On commence à voir des segmentations de marché. Mais derrière, en termes de R&D, il y a des matériaux, il y a de l'électromécanique, il y a des logiciels, il y a de la chimie avec la batterie. Le véhicule électrique ne gagnera la bataille que si les batteries sont capables d'emmagasiner suffisamment d'énergie pour que la voiture soit suffisamment autonome. On ne va pas s'amuser à charger une batterie tous les 100 km. Quand Tesla dit qu'il fait 600 km, c'est vrai, mais il a une batterie qui représente 70 kW, 80 kW, qui est 8 fois plus grosse que celle de la Renault Zoé. Donc il a mis une bombe dans sa voiture il y a des coûts correspondants. Donc c'est des véhicules haut de gamme. On ne comprend pas comment ils vont réussir à faire des véhicules de masse avec une autonomie suffisante. Ils prétendent être capables de le faire. Donc il y a énormément de recherches sur la chimie et sur les batteries. Sur la partie voiture autonome, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fabuleux. Aujourd'hui, vous avez déjà de l'assistance à la conduite. Vous avez tous des phares qui s'allument et qui s'éclairent tout seuls. Vous avez tous des essuie-glaces qui s'allument, qui se mettent en route ou pas selon qu'il pleut. Mais vous avez aussi, j'espère que vous avez dans votre voiture, un bip-bip-bip quand vous garez. Qui est-ce qu'il y en a? Ça, c'est le capteur ultrason. On a produit 400 millions dans les 10 dernières années. La quantité qu'on a produit, ça c'est un concentré de technologie, il y a de l'optique, il y a de l'ultrasonde, il y a Hytronic, il y a beaucoup de software dedans. Et la croissance l'année dernière de ce marché-là pour nous c'est 30%, et la croissance cette année sera encore de 30%. Et j'espère que vous avez des caméras, ça on a produit 10 millions. Un seul de nos clients veut en 2015 toute la production qu'on a faite l'année dernière, mais malheureusement c'est pas le seul. Donc on est en train de doubler notre production de ce petit truc, et je pense que c'est pas fini. On est en train de, il y a des radars, il y a des, on est le seul au monde à faire des laser scanners qui permettent d'avoir une vision extrêmement précise de ce qu'il y a autour de la voiture. Et bien entendu, ce qu'on fabrique, j'aime le présenter comme ça, c'est qu'on fabrique les yeux et les oreilles de la voiture. Vous ne pouvez pas avoir une voiture autonome qui serait téléguidée par un GPS, parce qu'il ne verra pas le gamin qui est en train de traverser, ou le motocycliste, le motard qui est en train d'arriver sur le côté, ou une voiture qui est en train d'essayer de nous tamponner par derrière. Donc vous êtes obligé, bien sûr, d'avoir une géolocalisation de la voiture, qui ne sera jamais assez précise parce qu'elle ne connaîtra jamais son environnement. Donc nous, on s'est spécialisé sur ses yeux et ses oreilles de la voiture et l'ensemble, la cervelle aussi de la voiture, de ses yeux et de ses oreilles, donc tous les logiciels. Les logiciels, quand je suis rentré à Valeo il y a 6 ans, c'était 50 000 lignes de code. Ce qu'on développe aujourd'hui, c'est 5 millions de lignes de code. Et quand on regarde la génération suivante, ce sera probablement 10 ou 15 millions de lignes de code. Donc on voit la complexité de ces éléments. Il y a des voitures autonomes. On a présenté à Las Vegas... au salon d'électronique grand public, CES, une voiture qui s'est promenée toute seule dans les rues de Las Vegas. Dans le Nevada, c'est autorisé. Il y a 3 États américains où on a le droit de faire des essais, qui sont le Nevada, la Floride et la Californie. L'Angleterre a dit qu'ils y arriveraient ou qu'ils autoriseraient ça cette année. L'Allemagne et la France aussi. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'essais, d'argent qui est mis. Et une voiture autonome, c'est à la fois une voiture connectée, c'est une voiture qui a ses yeux et ses oreilles, il est l'ensemble des logiciels et qui a un accès, bien sûr, au freinage, à la direction de la voiture, et qui est capable de prendre pour nous l'ensemble des décisions. Mais le jour où on aura une voiture capable de traverser la place de la Concorde ou la place de l'Étoile en période d'embouteillage, c'est pas demain. Or, une voiture autonome, bien sûr, n'existera que lorsque, non seulement on sera capable, sur autoroute ou dans les rues de campagne, d'avoir cette voiture qui se conduit toute seule, mais aussi, dans les situations les plus dangereuses, d'être capable de conduire toute seule. Sinon, on aura des étapes successives qui vont arriver assez vite, des étapes successives qui prendront de plus en plus en charge le véhicule. Mais il y a une convention de Vienne qui dit que pour conduire une voiture, il faut avoir les mains sur le volant et les yeux qui regardent ce qui se passe devant. Donc tant que vous serez pas capable de faire de plus en plus de choses, le conducteur aura peu d'occasions, il pourra regarder son smartphone ou son iPad plutôt que de conduire. Et je pense que chacun d'entre nous aime peut-être conduire, mais certainement pas en ville, dans les embouteillages de Paris.